Alors, si je pouvais introduire par trois mots, ça serait la parole de Dieu, un ensemble de trois mots, qui nous brise, la repentance qui nous délivre et la grâce qui nous élève. C'est un protocole divin. Et ce n'est pas une invention d'homme, mais quelque chose que le Seigneur a mis en place de toute éternité. Parce que, comme il a été dit, Dieu est trois fois saint, et on ne peut pas l'approcher. Ce n'est pas possible. Même nous, on peut l'approcher cependant en Christ. Et là, tout change. Souvenons-nous de notre premier amour. Il est peut-être encore aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas. Souvenons-nous de notre premier amour. Combien la loi du Seigneur, les commandements, la parole, faisait toute la joie, ou fait encore, de notre cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Mais je ne te donne pas seulement ma vie, je vais m'appliquer à te contempler dans la Bible, à relever tout ce que tu veux que je pratique, je m'engage. C'était pas ça? Seigneur, je te donne ma vie, mais je m'engage à pratiquer tes commandements parce que je sais que celui qui t'aime, c'est celui qui pratique ta parole. La loi, la parole, les commandements, notre seule raison d'être, connaître Dieu par la parole, être introduit aux cieux en esprit par la parole, par amour. Parce que à ce moment-là, le Saint-Esprit nous a convaincus d'une chose aussi, non pas seulement que nous étions sauvés, mais que la loi, elle est saine, elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Romains 7, 12. Convaincu. La loi, il est vrai, n'a jamais prétendu sauver. Personne dans l'Ancien Testament n'a été sauvé par l'obéissance, mais par la foi. Abraham et nous, par la foi. C'est un fait. La loi a été donnée à un peuple qui était déjà sauvé de l'Égypte. La parole nous a été donnée une fois que le salut est entré dans notre vie. Nous sommes sauvés par la foi, mais ensuite vient s'appliquer à notre vie la parole de Dieu, indispensable. À pratiquer. Elle n'est donc pas la condition du salut, mais elle est le cadre de vie indispensable pour le racheter, pour celui qui croit, pour celui qui aime Dieu et pour celui qui veut le suivre. La condition indispensable, son cadre de vie, c'est la loi de Dieu, en plus de la loi des hommes. Et de la même manière qu'il nous faut obéir à la loi des hommes, jusqu'à un certain degré, il nous faut obéir à la loi de Dieu. Et de la même manière, si on n'obéit pas à la loi des hommes, eh bien, on va avoir des ennuis. Et si on n'obéit pas à la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est simplement pour respecter les commandements qui sont sujets à la bénédiction. C'est évident, on est tous d'accord, mais j'aime à reposer le cadre. Si tu m'aimes, eh bien tu vas pratiquer ma parole. Tu ne vas pas simplement chanter « Je t'aime Seigneur », tu vas pratiquer. Et si tu pratiques ma parole, alors tu vas sonder les Écritures jour et nuit pour savoir ce qui me fait plaisir. C'est un peu, en réduction, l'élan de notre premier amour. Ta parole, rien que ta parole, il est écrit. Et je ne veux pas changer la parole pour me faire plaisir. Je veux que tu m'aides à marcher selon ta parole. Et dans le cadre de notre vie, donc, cette loi joue un rôle indispensable, précis, indispensable, on l'a dit. Et en termes de rôle, elle en a plusieurs. Mais ce matin, je veux m'attarder sur un rôle en particulier et qui est très important pour nous et peut-être qu'on a tendance à le mettre de côté, à l'oublier. Et pourtant, c'est un rôle quasiment principal. Principal. Et ce rôle, c'est que cette parole nous a été donnée pour débusquer en nous le péché. C'est un rôle majeur. Débusquer en nous le péché, pour qu'on puisse l'apporter au Seigneur, qu'il puisse le régler en nous et que nous puissions être allégés de notre fardeau. La Bible dit que la parole est un miroir. Paul le dit en Romains 3:20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et il nous faut cette connaissance. On ne peut pas connaître la grâce si on ne connaît pas le péché. Donc la loi est bonne. Elle est excellente. Et puis, la Bible dit aussi en 1 Jean 3:4 que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes séduits. La vérité n'est pas en nous. Et je termine cette introduction par quelques paroles encore, mais ce dernier verset en Jérémie 31-33, « Je mettrai donc ma loi dans leur cœur. » C'est la nouvelle alliance. « Je mettrai ma loi dans leur cœur par le Saint-Esprit. » Ma loi ne sera plus gravée sur les tables de pierre, mais sur les tables du cœur, vivifiée par le Saint-Esprit. La loi n'est donc pas d'abord un code pénal destiné à condamner. Elle est un enseignement, une direction, une manière de vivre selon Dieu, devant Dieu, pour Dieu. Et quelque chose d'intéressant, vous savez que je fouille beaucoup l'hébreu, et le mot, par exemple, Torah, donc le Pentateuque, les 5 premiers livres de notre Bible, d'accord ? Le mot Torah ne signifie pas seulement loi. C'est très intéressant. Le mot Torah vient de la racine Yara, excusez-moi l'accent, qui signifie tirer une flèche, viser et montrer la direction. La Bible tout entière signifie viser, montrer la bonne direction. La Torah est l'instruction qui montre la cible à atteindre. Il est évident qu'on ne peut pas atteindre cette cible si cette loi ce commandement, cette parole n'est pas méditée jour et nuit. Et le mot hébreu pour péché signifie, lui, qui vient de la racine ata, qui signifie manquer la cible. Vous vous rendez compte? La loi dit, c'est une flèche. La parole de Dieu est une flèche pour montrer la direction, alors que le péché, lui, signifie manquer la cible. C'est un terme de tir à l'arc, mais c'est manquer la cible. Vous comprenez? Dieu n'a pas donné un code pénal, il a donné, en somme, un viseur. Et quand nous péchons, nous ne violons pas d'abord un règlement, mais nous ratons ce pourquoi nous avons été créés, pour aller vers la cible, une cible céleste. La loi dit, voilà la cible. Le péché dit, tu l'as manqué. La repentance, elle va dire, reviens et vise à nouveau. J'ai trouvé ça excellent. Cette révélation n'est pas cruelle, vous l'avez bien compris. Elle est miséricordieuse parce que c'est elle qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et vous l'avez compris, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Un homme qui ne sait pas qu'il est malade ne cherchera pas de médecin. Un homme qui ne sait pas qu'il est perdu ne cherchera pas de sauveur. Un chrétien qui ne comprend pas à quel point le péché est sérieux ne peut pas comprendre à quel point la grâce est grande et profonde et indispensable pour sa vie de tous les jours. La loi prépare donc le terrain de l'Évangile en démolissant notre auto-justification. Romains 7, 12, nous l'avons vu, la loi est sainte, elle est juste et bonne. C'est écrit dans la Nouvelle Alliance. La loi est bonne parce qu'elle nous remet en question. Je disais tout à l'heure, elle débusque en nous ce qui doit être débusqué absolument, le péché. Manquer la cible. Ce qui fait qu'en nous, il y a quelque chose qui nous fait manquer la cible. Elle éclaire les zones d'ombre et elle montre ce qui doit disparaître en nous, ce qui doit mourir progressivement au rythme du Saint-Esprit et de notre marche de disciples avec le Seigneur. Et il est vrai que cette remise en question nous courbe, elle nous brise, elle nous humilie. Mais n'est-ce pas par ce chemin qu'on est venu à Christ ? Lorsque la lumière a resplendi sur notre chemin, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur ? Pardon. La première chose, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Mais le Saint-Esprit a suscité en nous quelque chose qui allait nous ouvrir le ciel à travers le salut, c'était la repentance de nos péchés. Seigneur, pardon. Et c'est dans la mesure où ce pardon est déclaré, confessé, proclamé, que la bénédiction de Dieu arrive et que les choses naissent de nouveau, parce qu'il faut passer par là. C'est un sacrifice d'agréable odeur pour l'Éternel. La grâce qui passe par la repentance, sous l'œil, bien sûr, attentif du Saint-Esprit. Je vous propose de lire dans Matthieu quelque chose qui va encore nous étonner. Encore davantage. Matthieu 6, de 7 à 12, mais je vais m'arrêter juste sur quelques mots. Jésus va dire à des gens, à des disciples, qui lui demandent comment il faut prier. Alors Jésus commence par leur dire, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce n'est pas mon sujet, mais j'ai voulu commencer par ce verset. C'est une bonne digression en disant, Jésus va dire, quand vous priez, ne priez pas longtemps. Ne priez pas par de vaines paroles, des redites. N'expliquez pas au Seigneur ce qu'il sait depuis toute éternité. Dites-lui juste le strict nécessaire. Il connaît tout, il sait tout. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Je ferme la parenthèse et je file au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, il faudrait s'arrêter sur ces versets, c'est extrêmement profond. Et il va à un moment donné dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et tout de suite après, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, il met la repentance quasiment au début d'une leçon de comment il faut prier pour que l'Éternel, pour que Dieu soit satisfait. Vous vous rendez compte? La repentance est citée en quatrième ou troisième position. Et plus encore, il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire chaque fois que tu pries. Ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire maintenant, ça veut dire tout à l'heure, ça veut dire demain matin, ça veut dire... C'est fort. Et j'ai beau réfléchir, je ne peux pas baisser la barre, je ne peux pas. C'est comme si Jésus nous disait, vous qui vous voulez apprendre à prier, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose d'important qui concerne votre relation avec Dieu, c'est la repentance. Quand vous priez, dites ceci, cela, troisième verset, pardonne-nous nos offenses. C'est fort. La repentance est indispensable, bien sûr. Pas celle qui est forcée, pas celle qui est humaine, mais celle qui est consciente de la valeur de la parole de Dieu et de la valeur surtout que Dieu donne à sa parole, pas la nôtre. Et surtout aussi la valeur du péché qui nous coupe, qui obstrue la relation avec notre Dieu. Mais ce que Jésus là nous dit, il ne l'a pas inventé. Parce que des années, des centaines d'années avant, la chose existait déjà. Dans la loi, dans le tabernacle, à l'époque, la prière est symbolisée par l'autel des parfums. La règle absolue du temple était qu'un sacrificateur ne pouvait jamais s'approcher de l'autel des parfums pour prier sans être d'abord passé par l'autel des holocaustes, l'autel de bronze où le sang était versé pour le pardon des péchés et par la cuve d'airain pour se laver les mains et les pieds. Il ne pouvait pas prier sans passer par l'autel de bronze où le sang purifiait de tout péché. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas si on a bien compris cela dans nos milieux. Moi le premier, l'importance de laisser la parole de Dieu débusquer en nous ce qui manque la cible pour l'apporter à Dieu afin qu'il le règle. Chaque fois que l'on prie, chaque fois que l'on offre un sacrifice, le sacrifice de louange, d'adoration, le sacrifice de nos vies, tout cela doit passer d'abord par l'autel des holocaustes pour que le sang de l'agneau versé une fois pour toutes nous purifie de tout péché. C'est primordial. On ne comprend pas l'œuvre que peut provoquer en nous un manquement, une faiblesse, un péché, une désobéissance, ça c'est pas grave, Dieu nous sait qui on est, il sait très bien qu'on est des enfants désobéissants, enfin peut-être pas vous, mais moi il sait très bien que je suis désobéissant, c'est pas son problème à lui que l'on soit désobéissant, puisqu'il a réglé le problème à la croix. Bien sûr, il veut qu'on aille de progrès en progrès, c'est pas mon sujet. Mais c'est pas ça son problème à lui. Son problème à lui, qui devient notre problème, c'est quand on ne comprend pas que le sang doit nous purifier constamment dans notre spiritualité, dans notre relation, notre communion avec lui, constamment. Parce que Satan aura vite fait de mettre ça sous le boisseau, et notre chair aussi. Généralement, nos envies vont se poser sur d'autres choses que ce genre de réalité spirituelle. On n'aime pas trop ce genre de sujet. Et pourtant, c'est bien réel. Et ce matin, le Seigneur veut absolument nous le rappeler. Peut-être avec ces mots, souviens-toi de ton premier amour. Et la repentance à chaque prière, je le rappelle, ce n'est pas une punition. C'est le moyen de garder le canal de notre relation avec Dieu parfaitement ouvert. C'est pour ça qu'il avait institué ce protocole dans la loi de l'Ancienne Alliance. C'est pour ça. C'est pour que le peuple reste en relation avec son Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit aujourd'hui, comment tu dois prier ? Eh bien, demande à Dieu de pardonner tes offenses. Quelles offenses ? T'occupe pas. Puisque la Bible dit qu'il y a même dans nos vies des péchés qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous disais, le problème, ce n'est pas le problème du péché, c'est le problème de le laisser s'installer en nous. Parce qu'on a l'habitude de se repentir lorsqu'il y a une grave erreur, ou alors le dimanche à la Sainte-Cène, parce qu'on se dit, là, il y a un moment sérieux, donc au cas où, moi je suis comme ça. Non! Le péché, manquer la cible, c'est pour le iota de la parole. Vous vous rendez compte? Donc le Seigneur sait très bien qu'on ne peut pas accomplir la loi. Et ce n'est pas à nous d'accomplir la loi. Christ a accompli la loi et il va continuer à l'accomplir en nous, gravant la loi sur les tables de notre cœur, vivifiée par le Saint-Esprit. Voilà, c'est à lui de le faire. Mais il y a cette façon de venir, de s'approcher de Dieu. Seigneur, je te demande de pardonner mes offenses. De la même manière que je vais te demander que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, de la même manière que je vais te demander de me donner aujourd'hui mon pain quotidien. Là, c'est plus facile pour nous, hein ? Non, de la même manière, pardonne-nous nos offenses. Nous avons besoin d'être pardonnés. Journellement. La prière Notre Père, c'est pas une formule, on l'a bien compris. C'est un rythme spirituel intérieur, un mouvement de repentance, de restauration qui accompagne jour après jour le disciple qui veut plaire à son maître. Parce que le pardon n'est pas un événement isolé. Le pardon, c'est comme un flux continu de la grâce, un flux qui n'a, je dirais, ni commencement ni fin, un flux dans l'éternité dont nous profitons. La repentance garde le cœur tendre, empêche notre endurcissement, elle maintient une communion constante avec notre Père. Et j'ai été en relation avec des personnes qui me disaient, j'ai du mal à avancer avec le Seigneur. Et pour ces personnes-là, je savais que leur plus grand besoin, leur premier besoin, c'était de se repentir. D'ailleurs, lorsque la Pentecôte a éclaté, la première chose que Pierre va dire à l'humanité tout entière et à nous aujourd'hui, repentez-vous. Repentez-vous. Mais je suis chrétien de... Repentez-vous. Dans la Bible hébraïque, le mot de repentance est tseuva. Il vient de ce verbe shub, voilà, pour ceux qui vraiment veulent me demander la signification. que j'ai du mal à prononcer, qui signifie revenir, retourner, faire demi-tour. Voilà. Se repentir, ce n'est donc pas seulement pleurer sur son péché, c'est faire demi-tour et prendre un autre chemin. Et c'est ce que voulait dire Jean-Baptiste lorsqu'il disait « Vous vous êtes repenti, c'est bien, mais maintenant produisez du fruit digne de la repentance. » Ça veut dire, si la parole a débusqué quelque chose chez vous, vous vous repentez, c'est bien, mais maintenant vous vous tournez et vous abandonnez ce pourquoi vous vous êtes repenti. Sinon, vous êtes comme un homme qui se regarde dans la parole, dans une glace, mais ça ne lui sert à rien, il oublie qui il est, et il continue d'avancer comme ça, et il croit que c'est ça la vie chrétienne, et il croit que c'est comme ça qu'il va plaire à Dieu. Non, non. La repentance produit toujours les fruits. Et le premier fruit, c'est « j'abandonne ce pourquoi je me repens ». Et si je ne peux pas, parce qu'il y a des fois des choses, je ne peux pas l'abandonner, alors le Seigneur est disponible pour le faire à notre place. Mais tout se joue, vous l'avez compris, dans cette ambiance de repentance où on s'humilie volontairement pour que la grâce puisse surabonder. C'est merveilleux. Jésus place donc la repentance au centre de la vie, de la prière quotidienne. Et ce n'est pas pour rien. Parce que le péché nous coupe de la communion avec Dieu, le péché volontaire ou pas. La repentance la restaure par le sang du sacrifice de Jésus. Elle débloque les torrents de grâce du Seigneur pour nos vies personnelles. Et je vous l'ai dit, on ne peut pas s'approcher de Dieu, c'est pas possible, on ne peut pas, Dieu est trop saint. Et la clé de la repentance nous ouvre véritablement le ciel, véritablement. Parce que, je reviens dessus, quel que soit le péché, il nous coupe de notre relation avec Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu disparaît, c'est là qu'il y a une subtilité. Je dis qu'elle nous coupe de notre relation profonde avec Dieu. On va continuer à prier. On va continuer à servir Dieu peut-être, on va continuer à parler de Dieu, mais il y a quelque chose qui va être cassé en nous et qui va nous empêcher de progresser, qui va embêter notre croissance. Il y a un péché à débusquer et à enlever si on veut que l'Esprit-Saint fasse une œuvre profonde. C'est ça que ça veut dire. On peut vivre avec des péchés, mais ça ne sera pas pareil. Parce que le péché en nous va immanquablement nous pousser à nous cacher derrière des paravents, comme Adam dans le jardin d'Éden, qui est allé se cacher derrière les arbres du jardin parce qu'il avait péché. Et il ne savait pas, c'était involontaire. Mais c'est sa nature. À partir du moment où il a péché, quelque chose s'est déclenché en lui, quelque chose d'inconnu, mais qui va le pousser à aller se cacher. Et c'est ce que fait le péché en nous. Le plus petit péché fera qu'on aura la démangeaison charnelle d'aller se cacher derrière des choses pour, quelque part, fuir le Seigneur. Tout en continuant notre service le dimanche matin. Vous comprenez la différence? Comme c'est subtil. Tout en continuant notre vie chrétienne, mais quelque chose va être brisé, qui ne demande qu'à être réparé par la repentance. Et j'en arrive au troisième point, qui, vous le comprenez, on ne peut pas parler de la grâce sans d'abord parler de ce pourquoi la grâce nous a été donnée. La grâce, ce n'est pas pour vivre une vie chrétienne selon notre imagination. La grâce, c'est pour que la parole puisse nous vivifier, débusquer en nous ce qui est contraire au dessein de Dieu, afin que nous passions par la repentance et que nous puissions être élevés au trône de Dieu. C'est ça la grâce. Et la grâce, après, la grâce, elle va nous permettre de fouiller dans la parole tout ce qui déplaît à Dieu dans notre vie. C'est ça la grâce. La grâce, c'est d'avoir la capacité de nous remettre en question. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la capacité de dire au Seigneur, je viens de lire tel ou tel texte, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne vis pas ça. Et je te demande pardon parce que des fois, je n'ai même pas envie de le vivre. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Parce que cette grâce-là, elle nous envoie vers Dieu. Cette grâce-là, elle nous courbe, elle nous brise, et il y a une mort qui s'opère dans notre chair. Et à partir de ce moment-là, on a envie que Dieu nous fasse grâce. Mais pas pour vivre, pour continuer à vivre avec ce qui ne va pas. Cette grâce pour être délivré. Parce que tout a été accompli à la croix, et ce qui a été accompli à la croix doit nous être accordé, doit nous être donné. Par la parole, par la repentance, par la grâce. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, c'est le mot péché qui vous... Parce qu'il y a certaines personnes, le mot péché, ça ne va pas. Hein. Et je crois même que dans certaines traductions, les dernières traductions de la Bible, ils ne veulent plus mettre péché. Parce que le mot péché n'est pas bon. Vous avez jamais entendu ça ? Si, si. Et maintenant, le péché, ce n'est pas péjoratif, c'est pas... C'est... Comment ? C'est plus à la mode, voilà. Et oui, oui, oui. Mais moi, je trouve que ça explique bien ce que Dieu voulait nous faire comprendre. Et il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. On est sujet au péché, comme Adam, dès qu'il y a quelque chose, hop, on fuit. Mais c'est comme ça. Combien de fois j'ai vendu mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles ? Combien de fois j'ai préféré jouir de l'instant présent d'un bien de ce monde plutôt que de jouir de mon droit d'aînesse ? Combien de fois ? Et combien de fois le Seigneur m'a rattrapé au vol ? Il m'a dit non, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est le droit d'aînesse, c'est-à-dire la promesse de la bénédiction éternelle. Ce que je veux instituer en toi. Voilà. Combien de fois j'ai vendu mon sauveur pour quelques sous, comme Judas ? Combien de fois ? Mais on est comme ça. Et bientôt, on ne le sera plus quand on sera en haut. Mais voilà. C'est pour ça qu'il faut mourir à soi-même. Porter sa croix et renoncer à soi-même tous les jours de notre vie. Par la repentance. C'est pas le problème du Seigneur, ça, puisqu'il sait de quoi on est fait. Le problème, je le répète, c'est quand on croit que c'est ça la vie chrétienne. Là, il y a un piège. Alors que la grâce doit nous permettre de revenir dans sa présence, purifiés par le sang de l'agneau, justifiés par le sang de l'agneau, sanctifiés par le sang de l'agneau. Ça fait du bien. Et c'est la repentance qui nous fait entrer dans cet état. Jésus enseigne donc ses disciples à prier, pardonne nos péchés. Et là, on va terminer par encore quelque chose d'extraordinaire que j'ai été trouvé dans l'hébreu. Savez-vous que quand Jésus dit... Pardonne-nous nos offenses, nos péchés. En fait, il utilise le vocabulaire du Yom Kippour. Le grand pardon. Cette grande fête hébraïque, un des plus grands moments de la vie hébraïque. Il utilise le vocabulaire du Yom Kippour. Le grand jour des expiations. Le mot pardonne en araméen, la langue que Jésus parlait, c'est shevok, ce qui veut dire, c'est important, lâcher au loin. J'y viens, je vous explique. Lâcher au loin, mettre au loin. Le Yom Kippour. Jésus qui leur dit quand vous priez, dites « Seigneur, pardonne-nous ». Voilà. Et en fait, envoyer au loin, c'est le même geste que celui du bouc émissaire en Lévitique 16. Le grand prêtre, à cette époque, posait ses mains sur la tête du bouc et envoyait au loin, Chalar, je suppose, en fait, il envoyait au loin tous les péchés du peuple dans le désert, là où il ne reviendrait jamais. Vous vous souvenez de ce passage ? Quand vous priez « Pardonne-nous nos péchés » avec un cœur sincère, vous invoquez alors l'œuvre du Yom Kippour. Spirituellement, Dieu est attentif à ça. Nous invoquons une œuvre de grâce qui nous dépasse complètement. Un pardon qui nous dépasse complètement. L'œuvre du Yom Kippour, accomplie une fois pour toutes par Christ. Nos péchés sont envoyés au loin, le camp est purifié, la communion avec le Père est rétablie, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Mais ça, c'est bien réel, puisque Dieu jette nos péchés au fond des mers. Il ne veut pas s'en souvenir. Le Yom Kippour, la pensée éternelle du Dieu créateur qui offre à l'âme repentante un pardon incroyable, inimaginable, qu'on ne peut pas comprendre. L'un des verbes hébreux du pardon est naza, et ce mot veut dire porter, enlever, soulever. Quand David dit, par exemple, dans le psaume 32, « Heureux celui dont le péché est pardonné », il dit littéralement « Heureux celui dont le péché est soulevé ». Le pardon n'est pas juste une étiquette qui veut dire « annuler ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand nous péchons, nous portons notre faute. C'est pour cela que nous sommes courbés, bien souvent. Et Dieu descend vers nous pour nous sauver de cet état-là. Des fois, nous sommes courbés. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il manque la repentance. Alors, Dieu vient prendre le sac de plomb que nous avons sur le dos, ce lourd fardeau, et le charge sur ses propres épaules. Et qui, une fois que nous en sommes déchargés, nous prend par la main pour nous élever à lui, pour nous ramener dans notre position céleste, celle que Satan nous a ravie en ouvrant la porte du péché notamment, Satan ou nous-mêmes, ou notre chair. Et donc le Yom Kippour avait lieu une fois par an, Jésus en a fait dorénavant une application quotidienne dans la vie de ses disciples. Quand vous priez, dites « Père, je te demande pardon ». Et à ce moment-là, c'est on invoque le Yom Kippour, un pardon total, éternel, puissant, qui nous sauve et qui nous relève et qui enlève tout fardeau de notre cœur, qui permet à Dieu de répandre la victoire de Jésus-Christ sur la croix d'une manière beaucoup plus profonde. Alors, laissons l'apôtre Pierre nous parler et dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Oui, nous sommes courbés par la loi, le poids est révélé, brisés par la repentance, on accepte de confesser notre fardeau, même celui qu'on ne connaît pas. Élevés par la grâce, Dieu soulève le poids de notre faute et il nous soulève vers lui. En esprit, il nous attire dans notre position céleste, tout à nouveau, là où tout est saint, là où il habite. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas ? C'est fantastique la grâce qui nous a été faite et le moyen d'y parvenir. Tu te repens. Et là, dans le royaume de Dieu, il se passe une action extraordinaire, le Yom Kippour, au quotidien. Dieu qui relève, Dieu qui enlève le fardeau, Dieu qui nous ramène dans sa présence, puisque nous sommes de nouveau pleinement en Christ. Je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes pour arriver à la fin. Et ce que nous dit Pierre est monumental, parce que ce n'est pas seulement que le rafraîchissement vient de Dieu de manière générale. Le texte dit littéralement qu'il vient de devant la face de l'Éternel. Et dans toute la pensée biblique, la face de Dieu, c'est sa présence sainte. Cela veut dire que la repentance n'apporte pas seulement un soulagement intérieur, elle nous replace dans la présence même de Dieu, celle que Adam avait quittée et celle que nous retrouvons en Jésus-Christ aujourd'hui. Le péché nous avait rendu lourds, opaques, éloignés, oui, éloignés de la cible. La repentance dans le sang de Christ nous remet sur le bon chemin devant sa face. Et c'est de là que viennent les temps de rafraîchissement. Nous, on cherche des fois, midi à 14h, des temps de rafraîchissement. Qu'est-ce que je pourrais dire pour ne pas vous vexer ou pour ne pas vous choquer? Des choses que l'on met en place nous-mêmes pour faire, Seigneur, maintenant viens nous bénir, viens nous rafraîchir, viens, allez. Mais le Seigneur est en train de nous dire à ce moment-là, mais exauce toi-même ta prière, repends-toi. Et tu verras, il n'y aura pas besoin de rien. Une fois que tu es repenti, une fois qu'on est sur un bon terrain du sacrifice, je viens et je m'occupe de tout. Je te relève, je te rafraîchis. Tu n'as pas besoin de prier pendant 100 milliards d'années. Non, je viens et tu verras, je te vivifie parce qu'il y a en toi un esprit qui s'appelle un esprit vivifiant. Non, cherche pas, cherche mon protocole, ma façon de vivre ta vie chrétienne. C'est pour ça qu'il faut absolument décortiquer la Bible, non pas pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas, mais pour qu'elle puisse nous reprendre. La Bible doit absolument nous reprendre. Absolument. Ce que la loi ne pouvait pas faire, ce que notre volonté seule ne pouvait pas accomplir, la grâce le fait en la personne du Christ. Et souvenez-vous, il y a aussi dans l'Évangile une image vivante de tout ce chemin qu'on a vu ce matin en Luc 13. Jésus rencontre une femme courbée depuis 18 ans. Voilà l'image de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Une femme courbée depuis longtemps. Et le texte dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser par elle-même. C'est pour ça qu'il nous a laissé la repentance. On ne peut pas par nous-mêmes se redresser vers Dieu. Il faut que ce soit un acte libérateur, miséricordieux de l'esprit. On ne peut pas se redresser par nous-mêmes. Jésus la voit, lui parle, pose ses mains sur elle et immédiatement elle est redressée. C'est exactement ce que fait la grâce. C'est exactement ce que fait la grâce. Courbé depuis des années, il nous redresse avec délicatesse, avec miséricorde, avec gentillesse. Il nous redresse. Et quand Dieu redresse un homme, une femme, la seule réponse normale, alors à ce moment-là, la seule chose qui provient de son cœur, sans le chercher, sans l'inventer, sans le fabriquer, comme cette femme qui vient d'être redressée, c'est la louange. Elle glorifie Dieu. Elle n'a pas trop compris ce qui lui arrive. Mais ce qu'elle a compris, c'est que son fardeau lui a été enlevé. Ça, elle l'a compris. Et la première chose qui surgit de son cœur, c'est la louange, l'adoration. Et c'est ça, le fruit de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Une adoration, une louange qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de son œuvre, en nous, à travers nous, pour lui. Un sacrifice de bonne odeur. Les sacrifices que l'Éternel aime, c'est un esprit brisé, une âme humiliée. Pourquoi ? Pour nous rouler dans la poussière ? Non, pour nous élever à lui, pour nous élever à lui, pour nous élever à lui. Et certes, dans la tradition juive, il est aussi fait mention de cette poussière. Vous savez, elle intervient beaucoup dans l'Ancienne Alliance. Le mot poussière, lorsque l'homme retourne à la poussière, il se passe quelque chose. C'est indispensable, c'est une œuvre d'amour. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, une personne dans la poussière, par des épreuves, ou par un jugement, ou par une maladie, ou par autre chose, c'est une œuvre de grâce, parce qu'il l'emmène en fait dans l'humilité. Il l'emmène dans l'humiliation, dans l'humilité. Il l'emmène là où l'homme ne pouvait pas aller par lui-même. C'est une grâce, c'est une miséricorde. La même manière qu'il a utilisé quand nous sommes venus à lui, lorsqu'il nous a convaincus de péché, il nous a emmenés dans la poussière, dans l'humilité. Et vous savez ce que ça produit ? Humilité, vient du mot humus, décomposition. Et quand nous sommes décomposés dans l'humilité sur le sacrifice, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose, ou je dirais quelqu'un, peut naître de ce terreau spirituel, de ce terreau merveilleux. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui apparaît dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Il faut qu'il croisse et que je diminue pour qu'il puisse apparaître. Amen. On va terminer par la prière. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous aide, qu'il nous fasse comprendre, qu'il nous ouvre les yeux. Et souvenez-vous qu'il y a beaucoup de prières qu'on lui adresse, que lui-même nous demande d'exaucer. Seigneur, aide-moi à lire ta Bible. Le Seigneur, il nous dit non, non. Exauce ta prière. Éteins la télé et va lire ta Bible. Voyez ? Ou d'autres, Seigneur, donne-moi un cœur repentant. Non, non, tu connais le chemin. À travers la parole, tu sais ce qui ne va pas. Tu sais ce qui manque la cible. Et ce n'est pas grave, c'est normal. Tu viens vers moi, tu ne me demandes pas d'enlever. C'est à toi de le faire. Tu ne me demandes pas de... C'est à toi de le faire. Parce que il y a un autre piège que je veux éviter, que tu comprennes, que tu dois comprendre. C'est que bien souvent, tu me demandes des choses et puis tu oublies. Et demain, tu recommences. Parce que tu crois que quand tu demandes quelque chose, eh bien, tout est bien. Non, il manque les fruits de la repentance. Vous voyez ? C'est un acte, une marche en avant. Que son nom soit béni, qu'il nous aide. On a besoin de son aide. Non seulement pour être relevé, mais aussi pour comprendre le chemin de la bénédiction, le chemin de la grâce. Et je vous assure, toute la parole le témoigne. Dieu fait tout le reste. Tout ce qui a déjà été accompli dans les lieux célestes, alors se réalise dans notre vie parce qu'il nous aime. Amen. Seigneur, juste quelques mots pour expliquer maladroitement quelque chose de divin, quelque chose de merveilleux. Simplement, Seigneur, je me repens. Je te demande de pardonner mes offenses, comme je pardonne à quiconque m'a offensé. Je te demande d'accueillir cela comme un sacrifice de bonne odeur. Parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui prend ma place. Et ce n'est plus moi que tu regardes, c'est Jésus qui a tout accompli. Jésus, mon libérateur, qui me relève, qui enlève mon fardeau et qui m'aide à vivre une vie digne du royaume de Dieu. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je fais semblant. Je suis hypocrite. Moi, je n'ai pas de force. Toi, tu es tout. Et tu l'as dit un jour, je mettrai la loi dans mon cœur pour qu'ils obéissent. Je mettrai mon esprit en eux pour qu'ils puissent vivre, sous-entendu, mes commandements, parce que c'est ce que je cherche avant toute chose dans mon peuple, dans mon église, des gens, des hommes, des femmes qui m'aiment vraiment des hommes, des femmes qui vont dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Et je veux la méditer jour et nuit. C'est comme cela aussi que je te montrerai mon amour. Ta parole, rien que ta parole, toute ta parole, jour et nuit. Ta parole, grand Dieu. Merci Seigneur. Amen.